Parcours intérieur, saison 2, le podcast qui vous dit tout sur la préparation mentale.
En fait, j'étais déjà pas bien, mais pour moi, c'était pas envisageable. Donc, j'ai continué jusqu'à un point où je pouvais plus en fait être sur un parcours de golf et c'était plus possible.
Le sport de haut niveau, c'est par définition le dépassement de soi pour atteindre l'excellence. La majorité des champions associent travail et douleur à la performance et poussent leurs limites. Mais à quel prix? Certains d'entre eux peuvent en arriver parfois au surentraînement, voire à l'overdose. Pour les amateurs, le surentraînement et la quête effrénée de résultats peuvent aussi avoir des conséquences très néfastes sur le plaisir du jeu. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la joueuse professionnelle Perrine Delacour, ainsi qu'Élise Encarte, psychologue du sport, qui l'accompagne depuis septembre 2022. Bonjour Perrine, bonjour Élise.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Perrine, nous souhaitons démarrer par vous puisque vous avez accepté de témoigner dans ce podcast. En décembre 2022, vous avez déclaré ne plus pouvoir jouer et être suivie désormais toutes les semaines. Quand précisément et comment avez-vous compris que vous souffriez de surentraînement ?
Donc pour moi, ça a commencé, j'ai eu une première alerte au mois de mai, mais pour moi, c'était pas possible le surentraînement. D'être pas bien psychologiquement et jouer au golf à haut niveau, c'était pas possible. Donc en fait, j'ai un peu laissé de côté. J'ai eu un événement familial en juin qui m'a vraiment touchée et au mois d'août, en fait, fin août, à mon dernier tournoi au Canadian Open. Après deux tours, je passe le cut et je m'effondre, je suis en larmes, je suis pas bien. Et donc je texte Élise, moi j'étais au Canada, Élise était en France, je lui dis écoute, c'est quoi les signes d'un surentraînement, d'un burn-out, d'une dépression, parce que voilà comment je suis. Et quelques jours suivants, Élise m'a contacté, on a fait un visio et de fil en aiguille, en fait, ça s'est arrêté dans la foulée sur ma saison et j'ai eu un point en moins en fait au cœur, au niveau du cœur, et je me suis sentie beaucoup plus libérée. Et là, je me suis dit ouais, je suis pas bien et faut prendre du temps pour soi.
Élise, en tant que psychologue du sport, pourriez-vous donc nous donner la définition du surentraînement et nous expliquer précisément la distinction entre le surentraînement, le burn-out et la capacité de résilience qui est assez à la mode en ce moment?
Alors, le surentraînement, c'est un état d'épuisement physique et psychologique qui est transitoire, qui peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Le sportif est en fait n'est plus en mesure de s'adapter à la charge de l'entraînement, malgré la motivation qui peut rester présente. Le sportif ne peut plus récupérer. Donc il ne peut plus faire face à l'intensité de la charge de l'entraînement et sa capacité de tolérance au stress est dépassée.
Et justement, pardon, le burn-out, c'est aussi un terme qu'on entend très souvent. C'est pas la même chose que le surentraînement.
Non, c'est pas la même chose que le surentraînement. Effectivement, le burn-out, c'est une entité clinique assez nouvelle d'ailleurs, qui se décline souvent dans le monde professionnel. En fait, le burn-out, c'est un retrait émotionnel, une incapacité à revenir à l'activité. Et ça se traduit sous forme de dépression sévère. On est candidat, entre guillemets, au burn-out quand la motivation est extrinsèque. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. C'est-à-dire que si finalement les motivations ne sont pas ancrées, on a plus de chances à un moment d'arriver à un point de non-retour, puisque la motivation ne vient pas de soi. Hein, donc les capacités de régénération et de motivation, finalement, si elles dépendent que d'une source extérieure, à un moment, elles s'épuisent. Et la résilience, c'est la capacité à faire face aux événements de vie difficiles, à rebondir et à en faire quelque chose. Parce que le sportif, finalement, grandit avec cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau, il n'a pas d'autre choix que de voir le positif, de tirer des leçons de ce qu'il vit et de faire mieux.
Ça fait partie de la vie du sportif, en fait.
Ça fait partie de l'état d'esprit. La santé mentale, selon l'OMS, c'est la capacité à travailler, la capacité à faire face aux difficultés de la vie quotidienne, la capacité à réaliser son potentiel et un état de bien-être émotionnel. Et c'est forcément mis à l'épreuve dans le sport de haut niveau, puisque le sport de haut niveau, c'est une prise de risque physique, c'est une prise de risque psychologique. Il y a quand même quelque chose qu'il faut renouveler. Et donc, les états de surentraînement, en fait, sont quelque part peut-être plus courants que ce qu'on croit, hein, parce que le diagnostic est difficile à poser, parce qu'on est dans une urgence de résultats. Et qu'il y a une nécessité de dépasser ses limites. Donc, le diagnostic est difficile à admettre, finalement. Le sportif va d'ailleurs ne pas vouloir se mettre à l'arrêt. Souvent, finalement, c'est l'extérieur qui doit être protecteur, hein, et dire là, en fait, ça devient contre-productif de se faire du mal, en fait, de s'épuiser. Voilà.
C'est exactement ce qui m'est arrivé d'ailleurs, Élise, quand je l'ai pris au début septembre, elle me dit, c'est comme si tu mets ta main sur du feu et que tu es brûlé une première fois, tu continues à la mettre. Et c'était exactement ça, en fait. Moi, je l'acceptais pas. Et si personne m'arrêtait, en fait, je continuais. Moi, je voulais encore jouer au moins un tournoi et après arrêter. Et c'est les médecins qui m'ont dit, non, là, t'arrêtes. Et moi, c'est là où j'ai senti que ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, ah oui, en fait, j'avais vraiment quelque chose, quoi.
Et là, Élise, donc Perrine, elle témoigne en tant que professionnelle, mais le surentraînement, c'est aussi l'affaire des amateurs qui nous écoutent et qui, passionnés par ce sport, peuvent aussi se laisser prendre dans une recherche presque obsessionnelle du résultat. C'est possible, ça?
Le risque de surentraînement est lié à plusieurs facteurs. Forcément, il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité au surentraînement quand il y a un contexte de perfectionnisme, une forme de fonctionnement addictif à la performance. Il peut y avoir un contexte de faible estime de soi et de perfectionnisme au sens où finalement, c'est comme si on était à la recherche de quelque chose et le résultat, en fait, apparaissait comme un mirage. C'est-à-dire que finalement, la personne cherche quelque chose qu'elle croit trouver dans les résultats, mais c'est jamais suffisant.
Donc c'est important de bien définir sa propre quête.
C'est important de bien la définir, encore qu'elle soit parfois évolutive.
D'accord. Et dans un précédent podcast, le docteur en psychologie Isabelle Inchauspé parle pour les champions du besoin démesuré de s'envoyer en l'air, de s'éclater, de se régaler. Comment est-ce qu'on a pu avoir atteint des sommets, puis par la suite être redescendu si bas dans l'échelle émotionnelle?
Déjà, c'est à la hauteur finalement de l'engagement. Hein, c'est-à-dire que l'engagement en sport de haut niveau, il est total, physique, émotionnel.
Psychologique,
vous vouliez rajouter?
Bah aussi, ouais. Enfin, moi, je sais, pour en parler, on met tout pour le sport, en fait. Donc, quitte à laisser un peu la vie perso de côté, et on met tout pour le sport. Donc, oui, pour rebondir, c'est normal. Quand il y a les résultats, on est très, très haut. Et quand on n'est pas bien, bah, la confiance prend un coup. Et donc, du coup, on perd beaucoup. Et émotionnellement, en fait, c'est un peu dur d'avoir toujours la même émotion. Donc c'est plus, on investit tellement en fait dans une carrière, dans tous les sports, à partir du moment où c'est une passion, on s'investit à fond, que émotionnellement, ouais, ça peut être difficile et on peut traverser des moments pas faciles.
Et je voudrais revenir vers vous, Élise, vous avez parlé précédemment des facteurs de vulnérabilité qui sont liés au surentraînement. Est-ce que vous êtes en mesure de les détecter?
Finalement, les jeunes ou même les adultes hein, qui ont une estime d'elles-mêmes faible, malgré en fait les réussites professionnelles, sociales, affectives, le contexte de perfectionniste au sens où c'est jamais assez bien, hein, et c'est d'ailleurs là-dessus que le sport de haut niveau quand même met à l'épreuve, puisque de toute façon, on peut toujours faire mieux, il faut toujours faire ses preuves, il faut toujours réitérer la performance. Donc déjà, le sport de haut niveau est un contexte à risque. J'aime bien prendre l'image de l'acrobate parce que c'est quand même ça. Hein, c'est un contexte à risque et donc comment réguler les émotions, c'est-à-dire mieux je connais mes angles morts, mieux je connais en fait ce sur quoi je me récupère et mieux je tiens en équilibre. Après, si l'entourage n'est pas suffisamment porteur, étayant, ça c'est aussi un facteur de fragilité, forcément. Et si finalement l'entraînement est monotone, répétitif, il y a aussi une forme de risque de fragiliser les ressources.
Et quels sont les signes avant-coureurs du surentraînement, de manière peut-être un peu plus concrète?
Il y a un questionnaire qui existe, en fait, qui permet aux sportifs de se situer s'il est en risque de surentraînement. Ce questionnaire, il a été élaboré par la Société française de médecine du sport. Il comporte 54 items qui, en fait, investiguent les troubles de l'appétit, du sommeil, les sensations physiques qui seraient de l'ordre de l'angoisse, du stress. Il évalue aussi la motivation, il évalue l'irritabilité, est-ce que l'humeur est plus fragile. Il peut y avoir, dans certains cas, une chute des performances, mais pas toujours. Il n'y a pas de marqueur biologique, hein, donc c'est important que ce soit un travail d'équipe, hein, pluridisciplinaire, pour que chacun apporte son regard.
Pour pouvoir détecter, vous voulez dire?
Oui, tout à fait.
Apporte. D'accord.
Hein, et sachant qu'on est dans une urgence de compétition et de résultats. Ce qui rend difficile le fait que le sportif, en fait, doit se régénérer, doit se récupérer pour éviter la dépression qui peut, en fait, être une conséquence du surentraînement. La conséquence du surentraînement la plus fréquente, c'est la blessure parce que finalement, le sportif ne s'arrête pas et donc son corps s'arrête.
Et le sommeil ou encore l'alimentation peuvent être des signes avant-coureurs relativement concrets, en fait, aussi. je aussi. Suppose. Oui, tout à fait.
Oui, mais après, en tant que sportif, moi, personnellement, je m'en suis plus rendu compte au niveau émotionnel que tout ce qui était autour. Pour moi, c'était pas envisageable d'être pas bien mentalement et de jouer au golf, c'était pas possible, en fait.
Oui, donc c'est comme ça, vous, que vous avez commencé à ressentir.
Ouais, c'est vraiment comme ça. C'est quand j'ai passé le cut au Canadian Open que j'ai vu que bah, le week-end, en fait, j'avais pas du tout envie d'être sur un parcours de golf.
Le Canadian Open, donc sur le circuit américain,
le LPGA. Circuit, sur le LPGA, ouais.
En août 2022. D'accord.
Et en fait, j'ai pas. Pour moi, c'était comme ça que ça a commencé. Même si j'avais déjà eu des alertes avant, au mois de mai, où bah, en fait, j'étais déjà pas bien, mais pour moi, c'était pas envisageable. Donc j'ai continué. Jusqu'à un point où je pouvais plus, en fait, être sur un parcours de golf et c'était plus possible. Et donc, du coup, bah, j'ai arrêté. Et au moment où j'ai arrêté, c'est vraiment, comme je le répète, j'ai eu vraiment un poids en moins au cœur. Et je me suis dit, ah ouais, en fait...
Un fardeau en moins, en fait.
Je portais ça tout le temps et j'osais pas l'avouer. Et j'ai mis du temps à l'accepter avant d'en parler aujourd'hui ouvertement.
Et Élise, quel est votre regard par rapport justement à une athlète comme Perrine? Comment est-ce qu'elle peut ne pas se rendre compte qu'elle tombe dans le surentraînement? On a tendance à penser que les athlètes sont très à l'écoute d'eux-mêmes et notamment de leur corps, etc. Et finalement, c'est peut-être pas du tout le cas.
Non, c'est pas toujours le cas. D'autant que pour tenir finalement face à la charge de l'entraînement, mais aussi aux enjeux et à toute la pression que ça peut représenter, hein, la pression interne et la pression externe, on peut, en fait, face à un stress qui est trop important, ou alors à une quantité de stress répété trop important, avoir comme défense de se couper d'une partie de soi-même. Donc on s'anesthésie une partie de soi-même hein, pour, en fait, tenir. Et donc on se déconnecte.
Exactement, ce qui d'ailleurs m'est arrivé pour moi. Hein. C'est que j'ai déconnecté au fur et à mesure. En fait, pour moi, c'était exactement...
Vous étiez là sans être là, c'est ça? Vous jouiez un tournoi sans y être vraiment?
Je jouais le tournoi parce qu'il fallait jouer le tournoi, mais j'avais tout sauf envie d'être sur un parcours de golf. Quoi. Moi, quand j'ai annoncé que j'arrêtais, j'ai... De septembre jusqu'à décembre, si j'ai joué au golf 5-6 fois, c'était le maximum. Et ça me manquait pas du tout, en fait. Au début, j'ai eu une première période où j'étais vraiment pas bien parce que je me dis, bah, les joueuses, elles sont en train de jouer. Moi, je m'entraîne pas, je suis pas bien. Élise m'a aidé à traverser cette période-là en me disant, non, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, que tu te retrouves toi-même et tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs à l'heure actuelle que je peux reprendre sur le circuit cette année, quoi.
Justement, Perrine, elle nous fait part donc de la difficulté aussi pour elle à accepter de s'arrêter. Mais comment est-ce que. On sait qu'il faut s'arrêter.
On sait qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a de la souffrance, qu'on peut se faire du mal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des signes avant-coureurs de blessures à répétition, des chutes de performance, une humeur qui quand même peut être dépressive avec de la tristesse, de l'irritabilité, de l'angoisse.
Et que ça s'inscrit dans le temps, je suppose.
Et que ça s'inscrit dans le temps. Mm-hmm. Hein, donc c'est pour ça que c'est important que l'athlète ne soit pas isolé. Et que l'environnement soit suffisamment porteur.
Bienveillant, je suppose.
Protecteur. Oui. Permettre, en fait, à l'athlète de rester en équilibre. Et un moment, quand ce n'est pas, en fait, possible, hein, il faut quand même le protéger de lui-même.
Et pour Perrine, ce surentraînement, il est arrivé au bout de presque 10 ans de carrière, au plus haut niveau. Mais habituellement, diriez-vous qu'il y a une phase dans une carrière où ce surentraînement est le plus apte à se manifester? Et de la même manière, peut-être pour les amateurs aussi.
La capacité à se régénérer, à récupérer des charges d'entraînement, à s'adapter au stress, dépend effectivement des enjeux, de la charge d'entraînement et de la personnalité, des moments de vie. Donc,
c'est pas mathématique.
Non, c'est multifactoriel.
Et donc la question qu'on a très envie de vous poser, Perrine, c'est comment est-ce que justement vous vous en êtes sortie, puisque vous avez l'air d'être bien, si je puis me permettre.
Ouais, merci. Donc déjà, moi, pour m'en sortir, donc j'ai eu un suivi en fait avec Élise toutes les semaines de septembre jusqu'à presque début janvier. Après, j'ai pris la décision d'arrêter avec toute mon équipe aux États-Unis, donc c'est-à-dire mon entraîneur, mon préparateur physique, mon caddie, j'ai tout arrêté.
Donc vous avez recréé une équipe ?
J'ai recréé une équipe et j'ai eu aussi beaucoup d'échanges à mon arrivée en France parce que avec le Paris 2024, ils ont créé des week-ends bleus avec des athlètes olympiques où en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à avoir ces problèmes-là.
Ça vous a fait du bien, je suppose.
Ça m'a fait du bien. Après, même si au début, vraiment, j'arrivais pas du tout à en parler. Quand on me demandait pourquoi t'es rentrée en France, c'était raison personnelle. Je m'évoquais pas là-dessus. Et après, j'ai réussi à échanger de plus en plus, à m'ouvrir et à du coup recréer une équipe autour de moi qui est bienveillante, qui est disponible quand j'en ai besoin. Et même si elle est en France et moi je suis aux États-Unis, j' ai vraiment tout redémarré, une nouvelle structure. Et
c'est une sorte de renaissance.
Exactement, c'est une renaissance, un nouveau départ, on prend comme on peut, mais Élise m'a aussi dit, parce que moi j'étais à un moment au mois de décembre où je disais mais je sais pas si j'ai envie de retourner aux US ou autre, et elle me dit tu peux pas rester en fait sur cette image que t'as des États-Unis, et jusqu'à mon départ début janvier, parce que je suis allée au début janvier aux États-Unis, enfin je voulais pas y aller quoi, et grâce à son aide elle m'a aidée et maintenant j'en suis là à l'heure actuelle.
En fait je remets à Perrine ce qui lui appartient, c'est-à-dire quand même elle a énormément travaillé pour faire de cette période de surmenage, en fait, de surentraînement, quelque chose de positif. Donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Hein, ça, c'est très important. Parce que...
Et même pour sa propre estime, je suppose. Non, aussi.
C'est surtout que parfois, on dépossède trop souvent en fait, les sportifs en fait, de leur mérite, de tout le travail qu'ils font.
Oui, parce que ce n'est peut-être pas juste remettre en place une équipe. Il y a sur elle-même, je suppose, un gros travail aussi.
Oui. Bien sûr. Donc voilà, je remets au centre en fait ce qui doit être au centre, c'est-à-dire le sportif et tout le talent et tout l'état d'esprit en fait qui finalement inspire les autres par leur force de travail, par leur capacité à se relever, à avoir le positif. Et même si finalement cette quête de l'excellence elle est coûteuse, je trouve que c'est quelque chose qui est beau et qui élève tout le monde en fait. Hein.
Et je voudrais justement rebondir aussi sur cette notion d'avoir la capacité de se relever, entre guillemets, pour les amateurs aussi. Justement, quels pourraient être les moyens de retrouver cette confiance de manière concrète ?
Pour tout humain, finalement. Quand on se confronte à une déception, à un événement de vie difficile ou à un épuisement, quelle valeur on donne à son parcours, qu'est-ce qu'on veut amener, donc les amateurs comme professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en fait de ces moments-là, on va dire de crise ou des moments symboliques importants pour quelque part être plus en accord avec soi-même aussi, hein. Ça peut être des moments aussi quand même où on se réapproprie les choses et où le moteur en fait change, hein, le pourquoi on est là change, et donc ça c'est intéressant même à tous les niveaux en fait, c'est-à-dire dans cette quête de beauté, cette quête d'excellence, cette quête de dépassement, l'intérêt c'est finalement exprimer son potentiel. Augmenter sa liberté d'expression, sa liberté d'action.
Tout en ayant des objectifs adaptés.
Tout en ayant des objectifs adaptés. Alors effectivement, ça c'est dépendant du miroir aussi qu'on va renvoyer au sportif, à l'humain. Hein. Un peu, y a des entraîneurs qui sont très porteurs et qui finalement, la rencontre entre le sportif et l'entraîneur crée de la performance parce que quelqu'un a cru dans le potentiel d'un autre et a développé, a réussi par la rencontre à faire quand même quelque chose de beau, etc.
Perrine, il faut du courage pour venir témoigner aujourd'hui. Est-ce là aussi, pour vous, un moyen de retrouver le chemin des fairways ?
Ouais, pour moi, c'est un moyen de retrouver le chemin des fairways, mais c'est plus aussi, moi, pour faire partager, en fait, mon expérience à d'autres personnes, parce qu'il y a, en étant sur le circuit, il y a quand même pas mal de sportifs qui sont comme moi et qui n'osent pas en parler par vulnérabilité, par peur, enfin, pas envie d'en parler, en fait, parce que c'est pas la facette qu'on veut montrer.
Ça, vous en êtes rendu compte, notamment quand vous avez rencontré tous ces athlètes olympiques et...
J'ai parlé avec pas mal d'athlètes olympiques quand j'ai fait mes week-ends bleus. Je suis allée aux Étoiles du Sport où j'ai parlé avec aussi des athlètes qui parlent de la santé mentale. Et donc, du coup, c'est là où ça m'a commencé à me faire prendre conscience que oui, ça arrive à tout le monde. J'ai regardé des vidéos sur Internet de Michael Phelps qui a beaucoup de titres au niveau olympique et qui, bah, lui aussi, a eu des périodes de dépression, des périodes de surentraînement. Et en fait, c'est ça qui m'a fait un peu... accepter et donc du coup être capable d'en parler à l'heure actuelle.
À quel point est-ce que c'est important de verbaliser, Élise, cette période compliquée, voire peut-être cette souffrance ?
Alors, je vais revenir là sur l'exemple des sportifs qui ont témoigné, qui en général attendent d'être au très très haut niveau, comme s'ils étaient enfin légitimes à en fait pouvoir exprimer une souffrance, un ras-le-bol, un épuisement ou une dépression. Donc,
si on revient sur les amateurs, c'est-à-dire finalement le droit à respecter ses limites et ses besoins, il ne s'agit pas d'atteindre des sommets pour s'autoriser à respecter ses limites et ses besoins. Hein, ça, c'est important de le dire, puisque c'est en se régénérant et en étant quand même plus connecté avec soi-même que... On crée de la cohérence intérieure, de l'harmonie.
Mais justement, Perrine, au début du podcast, elle disait je m'autorisais pas. Vous avez utilisé ces termes. Je m'autorisais pas justement à parler de surentraînement, etc. Voilà, je suis une championne, je peux pas. C'était ça.
C'était plus cette image-là. C'est parce que quand on est champion, pour nous, c'est pas. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je voyais. C'est qu'on peut. Ça marche pas le haut niveau et la santé mentale. Pour moi, on pouvait pas faire du haut niveau, même si on n'était pas bien mentalement.
Mais c'est pas un sujet, quoi.
C'était pas compatible, en fait. Et maintenant, je m'en rends compte parce que, comme Élise disait, j'étais arrivée là. J'allais à l'entraînement, je me forçais d'aller à l'entraînement, mais j'avais pas du tout envie d'y aller. J'y allais par obligation, en fait. Et grâce à ma nouvelle équipe autour de moi, Élise, ma préparatrice mentale, Amélie Cazé, qui est venue, mon entraîneur Grégory Buisson, qui m'ont aidé, qui m'ont dit, ouais, bon, bah, de septembre à décembre, tu vas au golf que quand t'en as envie. Et en fait, tes clubs, c'est tes copains. Donc, tu leur dis coucou, tu leur dis, ouais, bah, ils vont bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre du plaisir. J'ai même pris plus de plaisir. J'ai commencé à jouer en gauchère. Et en fait, c'est en faisant des choses comme ça, en réapprenant et en me disant, bah, en fait, le golf, j'aime le golf.
Pour le plaisir du jeu.
Pour le plaisir du jeu. Et en fait, bah, ouais, ça me manque. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre du plaisir. Et même encore là, je joue en gauchère. Enfin, je m'amuse, en fait. C'est que je m'entraîne, mais il y a aussi un côté où il faut que je garde ce côté amusement. Sinon, vu que je suis très perfectionniste, ça peut vite retomber dans un surentraînement. Donc,
Mais c'est sûr que c'est la difficulté aussi, quand on est pro-aide, justement, ça devient un travail. Et cette notion de plaisir du jeu, il y a un moment donné, c'est pas évident de le conserver.
On l'oublie presque. On l'oublie parce que c'est un travail, alors qu'à la base, enfin... On va pas travailler au golf, on va jouer au golf. Donc le mot jouer, c'est quand même c'est pas pareil que travailler, moi je trouve. Donc c'est faut garder, même si c'est compliqué. Donc c'est aussi super important d'être bien entouré autour et comme le dit Élise, d'avoir un entraîneur à côté de soi qui prend le temps, qui est bienveillant, qui communique, qui fait que l'athlète en fait se sent vraiment serein et bien. Ça, je pense, aide beaucoup à la performance.
Ouais, et en phase avec lui-même, comme vous le dites. Le disiez précédemment, Élise.
Et qui permet de garder la vitalité, la pratique, le sport de haut niveau, mais aussi, quelque part, à l'épreuve, le sentiment de vitalité dans la pratique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la répétition, il y a de la charge d'entraînement.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par la vitalité de la pratique?
En fait, la pratique peut être dévitalisée dans le sens où on perd du plaisir, on perd la légèreté, la liberté, l'instant présent, enfin, toute cette quête un peu précieuse, en fait. Que les enfants ont facilement, c'est-à-dire qu'au début, quand les passions sont naissantes et que les enfants sont doués, il y a toute cette magie-là, de cet instant présent, de ce plaisir à faire. Et effectivement, le haut niveau peut dévitaliser en fait le sportif, c'est-à-dire aller à l'encontre en fait du but recherché.
Ouais, je rebondis sur le fait des enfants et tout, parce que moi, j'en parlais beaucoup. J'ai une famille assez nombreuse et j'ai des neveux et nièces. Et en fait, c'est aussi ça. Moi, je sais pas combien de fois je dis à Élise, mais en fait, ils voient pas les émotions. Ça les impacte pas. Ils ont toujours un sourire. Et en fait, ça m'a fait vachement du bien à comprendre que, bah, ils profitent. En fait, ils tombent par terre, mais ils se relèvent et puis ils continuent. Et moi, ça m'a vraiment aidé à aussi avancer, à passer du temps avec eux.
Et c'est ce que vous avez essayé de retrouver?
C'est ce que j'ai essayé de retrouver, ouais, c'est ce que j'ai essayé de retrouver. Après, j'ai aussi pris cette période-là pour avancer aussi personnellement sur des projets en passant mon BP, en faisant un peu aussi...
Brevet professionnel, voilà.
Brevet professionnel, en évitant de rester vraiment chez moi à rien faire et j'ai avancé, en fait. Et j'ai pas pris cette période-là qui, oui, ça a été un arrêt pendant presque 6 mois de ma carrière. C'est rien parce que j'ai vécu des blessures auparavant. Mais après, je me dis aussi que c'était important et que j'en avais besoin parce que bah, ça faisait plusieurs années en fait, que je ne m'écoutais pas.
Avec votre recul, Élise, diriez-vous qu'il faut toujours être accompagnée par un professionnel ou est-ce qu'on peut, entre guillemets, s'en sortir tout seul, que l'on soit pro ou amateur?
On ne suffit pas à soi-même. Hein, c'est-à-dire que finalement, au fil des rencontres et des expériences humaines, on se transforme, on apprend des nouvelles choses. Donc c'est toujours intéressant pour un sportif d'avoir un espace pour se représenter les choses par son langage, hein, on est des êtres de langage quand même, de partager ses émotions, d'avoir un espace aussi un peu à côté,
Autre que
les entraîneurs.
Ou les parents, ou la famille. Enfin, c'est vraiment avoir un professionnel à qui se communiquer. Moi, à l'heure actuelle, j'ai Élise, où vraiment je communique que sur le côté perso, et ça me fait du bien, en fait. Chose qu'avant, moi, je le voyais pas comme ça. Moi, pour moi, c'était psychologue, ça va pas bien mentalement. Et en fait, je me rends compte que c'est vachement important pour avancer, pour enlever des choses qui sont construites, qui sont ancrées en nous. Et en fait, c'est rien, quoi.
Oui, c'est-à-dire que l'intérêt de la psychologie, c'est de clarifier en fait les processus qui sont conscients hein, parfois ou inconscients, qui nous dépassent et les transformer. Le but, c'est de se libérer, de devenir des êtres libres. Hein, et puis dans cette quête d'excellence, de perfection, c'est d'atteindre en fait le plein potentiel. Et donc la psychologie dans le sport, le sportif est mis à l'épreuve. Donc forcément, en fait, il va traverser des périodes qui seront fragilisantes, qui seront difficiles.
Oui, c'est ce que vous disiez, c'est une vie à risque.
Exactement. Et ça, c'est important de le resituer. C'est-à-dire que la psychologie n'égale pas la pathologie. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le sportif d'un côté qui ferait des médailles, et de l'autre, le sportif qui serait dans des phases d'anxiété, de dépression... En fait, c'est les mêmes. Hein. C'est un être humain qui, en fait, s'engage dans un parcours, dans une incertitude, dans une aventure émotionnelle, et donc qui se met en risque. Et donc, c'est l'accompagner, l'aider, en fait, à déjà à prendre conscience de toutes ses forces, de ses angles morts, et à développer, en fait, dans le temps, des stratégies, une meilleure connaissance de lui-même, etc.
Et Perrine, vous parliez précédemment justement du documentaire de Michael Phelps qui est sorti en 2020, je crois, Le poids de l'or. Pourquoi est-ce qu'en France, on a l'impression qu'on parle encore si peu de cette santé mentale dans le sport ?
Il n'y a pas qu'en France. Hein, aux États-Unis, ils en parlent un peu, mais au niveau du sport, je pense que personne n'ose en parler énormément. Comme je répète, c'est parce que ça ne m'a pas en phase en fait, avec le sport de haut niveau. Donc,
avec l'image qu'on s'en fait.
Avec l'image qu'on s'en fait et l'image que, je pense, le sport donne aux téléspectateurs.
Vous partagez ce sentiment, Élise ?
Je dirais que c'est quand même abordé de façon régulière, grâce au témoignage des sportifs dans un premier temps. Pour autant, ce qu'il faut, c'est l'installer, hein, que ça rentre en fait dans le quotidien des sportifs et de l'environnement aussi.
Et est-ce que ce n'est pas aussi parfois parce que les gens ont l'impression que les sportifs ont la chance de vivre de leur passion et donc ils n'ont pas intérêt à se plaindre ou ils n'ont pas le droit de se plaindre?
Ça, c'est des perceptions personnelles. Ça peut effectivement être une des raisons pour lesquelles ils n'imaginent pas avoir le droit de dire stop ou voilà, ça ne me convient pas. Il y a aussi des exigences élevées très importantes, très, très personnelles, hein, qui font qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit à la fragilité. Que la façon d'être au monde, en fait, c'est de devoir faire des performances et donc de ne pas en fait, donner une place à quelque part, à une forme de fragilité, à une demande d'aide aussi. La demande d'aide reste difficile pour des sportifs qui en fait, doivent tenir dans un contexte de difficulté.
Coûte que coûte.
Coûte que coûte. En revanche, ce n'est pas parce qu'on décide en fait, de s'enrichir, de s'entourer, dans un lien humain, en fait, on renonce à cette quête d'excellence. Au contraire, d'ailleurs.
Et pour les champions et les amateurs qui ont connu, justement, ce surentraînement, est-ce qu'on peut vraiment se remettre de cet état ou est-ce qu'on garde toujours des séquelles ?
Je pense que, pour en parler en tant qu'athlète, on va plus prendre le temps de s'écouter, en fait. Moi, pour le coup, je vais prendre plus le temps de m'écouter et je sais que ce que j'ai vécu, je vais plus le prendre le temps de m'écouter. Et donc, du coup, je sais que j'ai fait un surentraînement, je sais maintenant à quoi m'attendre. Après, je pense qu'on n'a pas de séquelles, mais on prend du coup plus le temps de s'écouter, chose que je faisais pas avant, moi.
Merci Perrine, on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Merci Élise. Alors pour conclure sur une note optimiste, il est certain qu'il est important de prendre autant soin de son esprit que de son corps et de savoir identifier les signes avant-coureurs d'un surentraînement afin de préserver sa santé mentale. Il ne faut pas hésiter à les identifier pour réussir à les contrer. Une fois de plus, bien se connaître, comprendre ses motivations profondes, trouver son équilibre et sa voie, se faire éventuellement accompagner mentalement, sont les clés d'une carrière amateur ou professionnelle longue et épanouie, et durant laquelle le plaisir du jeu demeure essentiel. prenez soin de vous et bon parcours intérieur.